Radio.
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 Pirate !
Bonsoir à toutes et à tous, il est 21h et vous êtes en direct sur Radio Pirate, la radio qui pirate le confinement. Malgré ce maudit confinement qui nous pèse et contre lequel on espère vous apporter un minima de quoi vous occuper une heure chaque soir, pour certaines professions, il n'a d'existence que sur leur temps libre. Et c'est pour cela que nous dédions chaque lundi soir aux travailleurs et aux travailleuses. Ce soir, nous aborderons les métiers de la santé avec nos invités, mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter l'équipe de Radio Pirate qui participe à l'émission ce soir. Tout d'abord, on peut souhaiter la bienvenue à une nouvelle arrivante qui a rejoint la piraterie ce week-end et qui a décidé de ne pas perdre de temps pour se lancer dans le grand bain. Et cette personne, c'est Tata. Bonjour Tata, est-ce que tu es là?
Oui, salut, je suis là.
Il participe à la préparation de l'émission depuis le début et sans lui, elle n'existerait pas. Vous avez déjà eu l'occasion de l'entendre dans d'autres émissions de Radio Pirate. C'est Adrien, bonjour Adrien.
Salut Maxime, salut les pirates.
Et pour compléter la présentation de l'émission, il y a moi-même et moi c'est Maxime et c'est avec fierté et main qui tremble que j'ai l'honneur de vous présenter ma première émission ce soir. Enfin, tout cela serait impossible sans eux. Ce soir, c'est Sophie qui s'occupe de la technique, Monsieur B de la modération et Circé qui transformera tout ça en podcast. Vous êtes sur Radio Pirate et ce soir, on parle de santé.
Radio.
Ce soir sur Radio Pirate, nous avons la chance de recevoir Elawan, Elsa et Lisa. Nous sommes donc réunis autour d'une table ronde virtuelle avec nos trois invités que je vais laisser se présenter chacune leur tour. On commence par Elawan. Bonjour Elawan, est-ce que tu m'entends?
Bonsoir, oui, je t'entends très bien. Alors, je m'appelle Elawan, j'ai 30 ans et je suis technicienne de laboratoire dans un hôpital. Et en fait, mon métier consiste à analyser tous vos prélèvements sanguins, urine et autres liquides de ponction divers et variés pour aider les médecins dans les diagnostics.
Ok, bah super, merci beaucoup Elawan et bienvenue. On se retrouve dans quelques minutes pour le début de la table ronde. On passe maintenant à notre invitée suivante. Bonjour Lisa.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, moi je suis sage-femme, je travaille actuellement dans une association qui aide les femmes les plus précaires et notamment celles qui vivent à la rue. Pour faire un petit rappel un peu sur ce qu'est le métier de sage-femme, c'est en gros accompagner les femmes ou les personnes qui assignées femmes à la naissance tout au long de leur vie affective et reproductive, enfin la santé sexuelle, quoi, donc suivi gynéco, suivi de grossesse, etc. Et voilà.
Ok, super, merci Lisa. On te retrouve toi aussi autour de la table dans quelques minutes. Mais avant cela, on va laisser notre dernière invitée se présenter. Elsa, est-ce que tu m'entends?
Oui, bonsoir Maxime, bonsoir à tous et bonsoir les pirates. Donc moi, je suis Elsa, je suis interne en médecine générale. Désolée, on me fait des signes chez moi, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis en 9e année de médecine, voilà, l'année prochaine ce sera derrière moi, enfin, encore faut-il que je passe ma thèse, mais bon, ça c'est une autre question. Actuellement, moi je ne travaille pas à l'hôpital, je travaille en cabinet de médecine générale, mais j'ai été à l'hôpital à l'assistance publique des hôpitaux de Paris depuis l'année dernière, enfin pendant un an, et donc c'est de ça dont je vais parler ce soir.
Ok, super. Merci à toutes les trois d'être là et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ça nous fait super plaisir et on s'écoute tout de suite avant de commencer. Céline de Brianna Barbara.
Sailing hair, hair wash my mama gray. Sailing low, hair wash my mama go, wash my hair. We'll be right back.
Alors, avant de rebonsoir à tous, du coup, avant de commencer l'émission, je vais laisser Tata présenter quelques chiffres. C'est à toi, Tata.
Merci. Alors oui, du coup, tout au long de l'émission, je vais vous donner quelques chiffres qui nous ont paru assez importants et significatifs quant à la situation actuelle des hôpitaux. Le premier, selon un article de Bastamag paru le 29 octobre, donc ça c'est récent, les suppressions de lits continuent en 2020 dans 13 hôpitaux malgré la pandémie, avec par exemple 600 lits dans le groupement hospitalier Nord-Essonne, 350 à Tours ou encore 230 à Marseille. Ce n'est que la continuité d'une politique en place depuis des années qui a vu par exemple 3400 lits supprimés en 2019 sur l'ensemble du territoire français. Avant de reprendre, on vous laisse écouter une capsule dédiée à une information importante en ces temps compliqués de confinement.
Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclert met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul.
Bonsoir. Donc, comme vous avez pu le voir ce soir, nos trois intervenantes travaillent dans des secteurs différents de la santé. Cependant, elles sont toutes unies par un point commun, le manque de moyens pour effectuer correctement leur métier. Pour cela, les soignants s'étaient mobilisés en juin dernier lors de plusieurs manifestations, et notamment une qui avait à ce moment-là fait les gros titres.
Bonjour, vous suivez cette manifestation. Quelle est l'ambiance ?
Bah, écoutez, jusqu'à 15h, l'ambiance était plutôt globalement calme. Et effectivement, une fois arrivé sur l'esplanade des Invalides, le départ, effectivement, c'est un rassemblement qui devait se dérouler uniquement au pied du ministère de la Santé. Mais une fois sur l'esplanade des Invalides, bien en tête de cortège, des éléments s'en sont pris à la police qui assurait un cordon de sécurité. Et des échauffourées ont débuté dès 15h.
Et pourtant, la réalité en dehors du prisme médiatique pour les soignants et les soignantes qui tentent de s'exprimer paraît, comme pour d'autres, plus proche de celle-ci.
Vous faites gazer là ?
Bah oui, on se fait gazer ! Faire que ça, nous gazer à chaque manif hospitalière, on se fait gazer !
Depuis ces manifestations, il y a eu le grand rendez-vous de tous les professionnels de santé. Le Ségur de la Santé, organisé au début de l'été, il avait été présenté comme le grand remerciement aux soignants pour leur engagement lors de la première vague de coronavirus. Sans surprise, toutefois, Olivier Véran a déçu et les promesses des milliards n'auront pas suffi ni à satisfaire les soignants, ni à penser notre système de soins. Aujourd'hui, nous sommes en pleine deuxième vague face à une réalité à nouveau brutale et des réanimations pleines à craquer, proches pour certaines des fameux tris si redoutés.
C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux.
Et oui, monsieur Véran, c'est ça. C'est bien ça, la triste réalité de nos hôpitaux. Et même si la situation sanitaire semble tendre à l'amélioration provisoire, nous avons voulu faire un point d'étape avec nos invités du soir. Pour en parler, donc, nous avons sélectionné quelques questions pour que nos invités puissent confronter et nous exposer la réalité de leur métier et de leurs interactions en ces temps plus que particuliers. Nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission, qui sera une sorte de table ronde entre nos trois invités du soir. Et pour la première question qu'on avait envie de vous poser ce soir sur Radio Pirate, on s'est dit qu'en fait, la crise des moyens de l'hôpital, elle s'est renforcée avec le Covid, mais elle existait déjà depuis longtemps et les ouvertures étaient déjà béantes dans les murs du système de soins français. Donc si peut-être l'une après l'autre, pour commencer, vous pouvez nous présenter dans quel environnement vous travaillez et quelles fissures déjà connaissaient un petit peu vos, vos différents métiers à cause du manque de moyens. Je ne sais pas, on peut peut-être commencer par Elawan.
Moi, je suis dans un hôpital public depuis 2017, juillet 2017. En fait, c'est la première fois que je travaille vraiment parce qu'avant, j'enchaînais des petites missions. Et en fait, quand je suis arrivée, on ne ressentait pas en fait, ce manque de personnel. Mais c'est après en fait, quelques départs à la retraite, d'autres départs de contractuels, que en fait on a commencé en fait à sentir que on n'était pas assez pour le travail en fait qui est de plus en plus présent, parce que en fait j'ai beau être dans un hôpital, donc on s'occupe de des prélèvements de l'hôpital, mais on s'occupe aussi des prélèvements venant d'autres hôpitaux alentour qui n'ont pas de laboratoire, mais aussi venant d'EHPAD, de centres de rééducation, et en fait plus le temps passe, plus on accumule du travail. Et en fait, là, avec la crise du Covid-19, on le ressent beaucoup plus, ouais.
Ok, ben, merci pour ce petit point. Elsa, peut-être, toi qui es dans le système de santé depuis presque 10 ans, est-ce que comment ça fonctionnait un petit peu avant le Covid, tout ça? Est-ce que tu avais déjà senti, toi, quelques dysfonctionnements?
Alors, la particularité des études de médecine, c'est qu'en fait, on est pendant de nombreuses années juste passagers à travers des services, et que du coup on ne fait pas entièrement partie des équipes et qu'on a juste un petit aperçu de ce que ça peut être. Et puis surtout, faut aussi intéresser un petit peu, essayer de lire à travers les lignes pour essayer de mieux le comprendre. Très honnêtement, moi j'ai commencé mes stages à l'hôpital en 2013, et déjà à l'époque on parlait, enfin les débats, ils sont les mêmes depuis, parce qu'en fait enfin, ce qui revient tout le temps, de toute manière, c'est ces histoires de tarification à l'acte, la fameuse T2A et la nécessité de rentabilité de l'hôpital, qui pèse énormément sur les équipes, qu'elles soient médicales, paramédicales, etc., où au final, on pense davantage à l'argent que nous rapportent nos activités plutôt qu'au fondement de ces activités, qui est en fait le soin aux malades. Donc ça, c'est des préoccupations du quotidien, c'est pas du tout juste des mots, hein. C'est devoir réfléchir à est-ce qu'on fait pas sortir tel patient plus tôt parce que ça fait trop longtemps qu'il occupe ce lit-là et qu'il faut faire une nouvelle entrée, etc., etc. Ça, c'est des réalités qui sont dénoncées depuis longtemps. L'année dernière, à la même époque, le 14 novembre, on a défilé dans la rue, les internes, moi, j'étais interne. L'année dernière, c'était une des premières fois qu'on se mobilisait aussi grandement pour sortir, défendre l'hôpital public, parce qu'on se met rarement en grève tellement on a des pressions de travail. Et oui, c'est sûr que le Covid là-dessus, ça a mis comme une loupe en fait sur les dysfonctionnements. Mais d'un autre côté, il y a eu un paradoxe aussi, que la crise a fait que ça a fait sauter beaucoup de freins et de barrières qui avaient été mises dans l'hôpital pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on a vu, quand il y a eu la vague qui est arrivée, tout d'un coup, les vannes se sont ouvertes et on a dit « Ah oui, regardez, on peut faire ça, on va ouvrir des nouveaux lits ici, là, on fait venir plein de soignants d'ailleurs, hop, on construit des murs, on construit des bâtiments, on construit des unités. » Et on s'équipe en matos et tout ça. Il en a manqué beaucoup, mais il y a eu aussi plein de choses qui ont été faites. Et une fois que ça s'est tassé, au final, ça s'est refermé, les vannes. Et là, on est dans un genre de... Ouais, c'est ça, de sidération, de à quoi bon. Et puis, on est fatigué, je pense, par tout ce système-là qui ne fonctionne pas bien.
Ok, d'accord. Merci pour ce petit point. Et puis, Elisa, toi, pour finir le tour de parole, tu as aussi connu, différents environnements de travail à travers tes études, aujourd'hui dans une association. Qu'est-ce que tu avais déjà, toi, pu voir avant cette crise du coronavirus qui impactait largement tous les services hospitaliers?
C'est un petit peu comme Elsa, parce que la formation de sage-femme, c'est aussi une formation quasiment en alternance, c'est-à-dire que dès la deuxième année où on est à l'école de sage-femme, on fait 3 semaines de cours, 3 semaines de stage. Ça s'organise différemment selon les écoles, mais globalement, c'est ça. Et du coup, notre formation dépend beaucoup de l'environnement de travail dans lequel sont les professionnels de santé, puisque en fait, notre apprentissage pratique, c'est les professionnels qui nous le donnent. Et on ne va pas dire que, enfin, surtout que de manière globale, pour tous les étudiants en santé, je pense que les conditions d'apprentissage à l'hôpital ne sont pas les plus idéales. Et ça a été pas mal mis en avant par pas mal de syndicats étudiants et tout ça. Du coup, ça, c'est ce que je peux en dire, en tout cas, du point de vue de l'hôpital. Après, moi, j'ai fait quelques mois aussi en tant que sage-femme à l'hôpital public, où force est de constater qu'on était en sous-effectif permanent, même dans les services de maternité qui sont souvent oubliés des campagnes ou des discours politiques parce que normalement tout est censé rouler dans ces services comme ça. Et là du coup, mon travail maintenant dans une association donc qui aide les personnes les plus précaires, j'ai un peu le regard des usagers en fait du système de santé, parce que l'objectif, c'est d'amener en fait les personnes les plus précaires vers ce système de santé là. Et du coup, en fait, ce à quoi on est confronté, c'est des patients qui comprennent pas leur pathologie, qui comprennent pas leurs ordonnances, et c'est du temps en moins qui est pas pris, en tout cas pour accompagner ces personnes vers un meilleur état de santé.
Ok, merci pour ce petit tour de l'état, on va dire, pré-Covid, si on peut appeler ça comme ça. Je laisse à mes co-animateurs le soin de poursuivre cette table ronde.
Oui, alors, on a vu du coup, on vient de voir à l'instant un peu l'état actuel avant le Covid et les conséquences rapides du Covid. La question qu'on va se poser du coup, c'est est-ce que ces difficultés sont apparues suite à la pandémie ? Alors, vous avez déjà commencé un peu à y répondre, mais si vous voulez refaire un point dessus, n'hésitez pas. Est-ce qu'elles sont apparues suite à la pandémie, ou est-ce que la pandémie n'a fait qu'aggraver une situation déjà précaire ? Alors, Elsa nous disait que ça avait mis une loupe sur les problématiques liées au Covid. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, Elawan ou pas ? Elawan, vas-y, ouais, tu disais que tu pouvais rajouter quelque chose.
Alors, en fait, nous, dans notre labo, on est divisé en plusieurs petits secteurs. Et en fait, pour le secteur de la biologie moléculaire, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est test PCR. Vous savez, le fameux grand coton-tige qu'on vous met dans les deux narines. Le truc pas super agréable, je reconnais. Et en fait, il y avait deux techniciens qui étaient, entre guillemets, à mi-temps en biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'un mois sur deux, en fait, ils étaient dans un autre secteur. Moi, je suis en biochimie, et en fait, on avait un collègue qui était en biochimie avec nous, mais qui faisait aussi la biologie moléculaire. Et depuis la crise, en fait, il n'est plus avec nous, il est à 100% en biomol, ce qui fait que, en biologie moléculaire, ils arrivent à s'en sortir. Mais nous, on a, depuis mars, en fait, on a une personne en moins. Donc, on doit composer, en fait, avec une personne en moins pour les gardes et les nuits.
Ok. Donc, du coup, en fait, ils vous déplacent du monde, mais vu que vous n'avez pas de monde en plus, ça déplace juste les problèmes, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que oui, Lisa a quelque chose à rajouter? Vas-y, Lisa, on t'écoute.
Oui, du coup, en gros, nous, quand dans la zone dans laquelle je bosse, on a dû réorganiser aussi notre manière de travailler. Donc, c'est-à-dire parce que d'un point de vue du confinement, les personnes, il faut aussi répondre à d'autres besoins comme fournir des masques, du gel hydroalcoolique, etc. Donc, c'est des matériels qui ne sont pas donnés et qui ne sont pas non plus donnés par l'État. Donc là, ça soulève aussi un questionnement sur l'accompagnement des personnes les plus précaires dans cette situation de confinement, d'isolement et de protection aussi en soi. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que le Covid, ça a aussi créé une crise sanitaire et ça a aussi créé une crise économique. Et du coup, des personnes qui vivent à très nombreuses dans des appartements, il y a des difficultés par rapport à l'isolement qui sont mises en fait à la rue par leur famille parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'être isolées. Et du coup, pour éviter de contaminer d'autres membres de leur famille, en fait, elles se retrouvent à la rue. Donc, ce que ça renvoie, ça, c'est que cette crise sanitaire crée d'autant plus de précarité.
En effet, merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, Elsa, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on termine ou pas ?
Je peux rajouter avec un exemple un peu pervers de comment le système hospitalier réfléchit en ces temps de Covid. Et, donc moi, au printemps dernier, pendant la grande crise, en fait, j'étais en stage de pédiatrie dans un hôpital de Seine-Saint-Denis. Et au moment où c'est arrivé, en fait, l'activité en pédiatrie a considérablement diminué avec la fermeture des écoles, le confinement, etc. Sachant que la maladie du Covid-19 touche très peu les enfants par ailleurs. Et donc, du coup, nous, internes de médecine générale, on a été déplacés en unité Covid pour les adultes. Pas seulement les internes, mais aussi pas mal de personnel non médical, donc des infirmières, des aides-soignantes, l'équipe de psychologues, etc., ont été aidés chez les adultes. Et puis, au bout de quelques semaines, la direction de l'hôpital a donc dit au chef de service de pédiatrie « bah, vous voyez que vous fonctionnez bien avec beaucoup moins d'effectifs, donc du coup, on va réfléchir à fermer certains postes ». Enfin, voilà, c'était juste ça pour dire… à quel point ça a pu aussi aggraver le fonctionnement de certaines unités. Ouais.
En effet. Alors, il y a Elawan qui me indique qu'elle voulait rebondir là-dessus. Elawan, je te passe la parole.
Oui, en fait, ce qu'elle dit par rapport aux fermetures de services et tout, c'est un peu aussi ce qu'on observe dans mon labo. Il y a une personne qui part, que ce soit une démission ou une mutation ou un départ à la retraite. Ou même un arrêt maladie, parce que ces derniers temps, on en a eu pas mal. Et on fonctionne à flux tendu. On est, par exemple, à 2 ou 3, alors qu'on devrait être plutôt à 4 ou 5. On fonctionne bien, et on fonctionne plutôt bien, mais bon, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et on vient nous dire aussi, vous voyez, en fait, que vous n'avez pas besoin de nouvelles embauches.
Oui, voilà. En effet. Ça fonctionne, en fait. Ils font fonctionner la santé comme une entreprise privée, libérale, standard. C'est super. On est ravis. Merci beaucoup à toutes les trois. Je vais juste passer la parole à Tata, qui avait une petite remarque à ajouter en tant qu'ancienne infirmière et qui enchaînera ensuite sur la question suivante. Merci beaucoup. Tata, on t'écoute.
Merci. Oui, du coup, je voulais préciser pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément dans ce milieu médical dont on parle ce soir, qui est pas forcément facile à appréhender non plus. Faut savoir qu'il y a eu un plan hôpital en 2007, où on a changé le système de facturation des hôpitaux pour la T2A, qui est la tarification à l'activité. Donc, il faut savoir que la T2A, c'est 70% des ressources des hôpitaux publics, mais c'est aussi le mode de financement des établissements de santé privés. Donc, quand il y a eu cette application du plan hôpital 2007, on a vu une recrudescence, et moi je l'ai vu au travail aussi, de la demande de rentabilité de la part des cadres et des directeurs d'établissement envers les soignants. Et du coup, je vais rebondir là-dessus et sur ce qu'a dit Lawan avant. Je vais vous poser une petite question. On ouvre un gros dossier. Je vais vous demander si ce confinement et cette pandémie, pour votre rythme de travail, pour votre santé, ça a des conséquences. Est-ce que ça peut être des conséquences physiques, de la fatigabilité ou des conséquences psychiques? Et comment vous gérez? Voilà, je laisse la parole à celle qui veut parler en premier. Peut-être... Elawan, tu veux bien parler?
Oui. Pendant le premier confinement, comme en fait Elsa, elle a dit qu'il y avait des services qui avaient fermé parce qu'il n'y avait plus d'activité. Nous aussi, au labo, on a eu une grosse diminution en fait, des activités, on va dire, d'analyses en fait, qui ne sont pas urgentes. Par exemple, les analyses de trisomie. Les trisomies, on les a gardées. Par contre, c'est la PMA qu'on n'a pas gardée et d'autres petits trucs comme ça. Mais on a eu une augmentation de la charge de travail en fait, par rapport aux enregistrements des PCR. Et en fait, ça n'a pas eu trop de conséquences au niveau mental, enfin en tout cas pendant le premier confinement, mais on a eu un petit peu de fatigue physique. Mais là, avec la deuxième vague, comme en fait ils n'ont pas fermé tous les services, on se retrouve avec pas mal de tests PCR à enregistrer et à faire pour la biologie moléculaire, mais on a aussi tout le reste. Et en fait, là, ça commence à devenir fatigant physiquement et psychologiquement. À mon hôpital, ils ont anticipé la chose parce qu'ils nous ont mis en contact avec des psys.
D'accord. Donc, vous avez quand même un petit suivi, mais la fatigue est là, et autant mentale que physique, du coup. Je vais peut-être passer la parole à Lisa ou Elsa, qui veut.
Alors, je ne sais pas trop si ça va répondre à ta question, bon, parce que moi, j'ai fait qu'un court passage à l'hôpital, que j'ai rapidement quitté. J'avais fait quelques gardes en plus aux urgences gynéco-obstétriques quand j'étais encore en formation pendant la première crise du Covid pour aider les professionnels de santé en fait, à prendre en charge les patientes parce qu'ils n'avaient pas assez de personnel. Et voilà. Après, enfin, c'est quand là, j'ai commencé mon travail donc à l'hôpital. Ça a été, on va dire, un peu compliqué parce que j'ai été accueillie par une équipe qui était épuisée parce que il y a eu beaucoup de remaniements en termes de personnel, de protocole et tout ça. Et du coup, forcément, pour accueillir une nouvelle personne et la former au code de l'hôpital, c'est-à-dire des nouveaux protocoles, une hiérarchie qui n'est pas forcément la même en fonction des régions, etc. C'était une charge de travail supplémentaire et ils n'avaient pas forcément le temps de me former rapidement. Du coup, ça a été difficile pour moi de m'intégrer à une équipe qui était déjà complètement épuisée. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis partie assez rapidement de l'hôpital parce que c'était dur de rentrer parce qu'on avait peur de faire des erreurs, parce qu'on a peur de faire plus de mal que de bien, on a peur de tout ça, quoi.
Ouais, ce que j'aime dans ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, même si t'es pas directement concerné par cette fatigabilité de service, tu l'as subi quand même parce que tu attends des gens qui te forment et c'est pas possible de le faire dans des bonnes conditions. Je vais laisser parler Elsa, si elle a quelque chose à nous dire.
C'était Lisa, je crois.
Mais Elsa doit parler.
On a des prénoms assez proches. Donc ce que je voulais rajouter, moi, c'est que en effet, enfin moi du coup j'ai actuellement je suis en ville et juste avant j'étais en consultation à l'hôpital, donc je vis pas du tout la même épidémie et la même vague, vu qu'au printemps j'ai été postée en unité Covid, alors même que j'étais en train de faire de la pédiatrie en maternité et que ça n'avait rien à voir avec de l'unité Covid pour vieilles personnes âgées non réanimatoires. Ça a été un petit peu un grand saut dans lequel il y a aussi des pédiatres, des chefs de pédiatrie qui ont été bossés. Je vous laisse imaginer un peu le désarroi face à tout ça, mais on était dans une équipe relativement soudée dans laquelle on parlait beaucoup avec les chefs, avec les équipes paramédicales. On avait toute une équipe de psychologues avec nous aussi, qui venaient nous voir, nous et les familles. Donc ça a permis de faire tampon un petit peu, mais c'est vrai que t'as les patients qui meurent, t'as l'angoisse de la maladie, t'as l'angoisse des familles. Tu as le camion frigorifique dans la cour de l'hôpital, enfin derrière, qui te rappelle bien de quoi il est question. Et puis évidemment, enfin moi ça a été mes premiers vrais morts entre guillemets. Donc tout ça, on apprend à le gérer. Enfin moi de toute manière, j'ai pleuré la première fois au mois de juin, hein, une fois que tout ça s'était bien retombé. Mais c'est sûr que ça a laissé des marques sur les professionnels et que quelque part, moi j'ai cette chance-là d'avoir pu changer de lieu de stage. Là, j'y suis pas retournée. Enfin, j'ose pas trop imaginer la situation psychique et mentale des professionnels qui y sont encore et toujours et dont c'est sûrement pas la dernière vague entre guillemets d'ailleurs à gérer. En plus du fait qu'il y a pas mal de congés qui ont sauté. Donc au printemps, moi j'avais des copains en hiver, on se garde 2 semaines, on a 2 semaines de congés sur ce semestre-là d'hiver, Et en fait, moi, j'avais pas mal de copines qui avaient gardé leurs 2 semaines précieusement pour partir en mars ou en avril au soleil. Et en fait, bah, tu te retrouves à pas du tout pouvoir partir en vacances. Enfin, c'est sûr que ça crée des dommages. Voilà.
Et ben, merci pour ces témoignages qui sont parfois un petit peu dur à entendre, mais important aussi à écouter pour les gens qui nous écoutent et peut-être aussi les soignants qui ont pu connaître des situations similaires à celle-ci. On voulait rebondir pour approcher un petit peu des 10 dernières minutes. Il y a eu un point intéressant qui a été cité par Lisa, qui est un peu qui est passé rapidement dans l'hôpital public quelques mois avant de finalement se diriger vers une structure externe au système de l'hôpital public. On sait aujourd'hui qu'il y a un problème d'effectifs dans l'hôpital public, on sait que les soignants ont tendance à s'épuiser très rapidement et à vouloir le quitter assez vite et à passer soit dans le privé, soit dans le système associatif. On aurait bien aimé vous entendre un petit peu là-dessus, vous qui connaissez bien cette structure de l'hôpital public. Et si toi, Lisa, tu pouvais commencer un petit peu peut-être par présenter ce qui s'est passé dans ta tête, toi, à ce moment-là, pour quitter l'hôpital public et ce qui t'a vraiment déplu.
Bah, alors, j'ai commencé à bosser assez rapidement après mon diplôme à l'hôpital. J'ai commencé à bosser avec quelques appréhensions parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vrai que nos études nous forgent à la dure, entre guillemets. C'est-à-dire que les soignants ne sont pas toujours tendres avec les étudiants dans leur manière de nous transmettre le savoir. Du coup, ça a été peut-être un peu déjà à reculons et donc pas forcément dans les meilleures dispositions que j'ai commencé à travailler. Ça n'empêche que du coup, n'étant pas dans les meilleures dispositions, j'avais des difficultés avec la hiérarchie qu'il peut y avoir à l'hôpital. J'ai eu des difficultés avec la manière dont on peut se parler, des fois de manière un peu brusque, au sein d'une équipe, parce que des fois il faut agir vite et qu'en n'étant pas assez nombreux, il faut réagir rapidement. Qu'avoir 3 patientes à accompagner et plus gérer les urgences, c'est parfois trop en fait pour quelqu'un qui commence tout juste sa vie de vrai professionnel de santé. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui ont fait que on se met aussi beaucoup de pression pour essayer de donner et d'accompagner au mieux les personnes. Parce que du coup, là, je parle surtout de la salle de naissance, de la période de l'accouchement. Donc, c'est un moment particulier et parfois unique dans la vie des futurs parents. Donc, c'est aussi essayer de donner ces meilleures conditions-là et qui ne sont pas forcément les plus idéales quand on doit gérer, en fait, tout un service qui est quasiment bondé. Je suis désolée, hein, je bégaye un peu, mais voilà. Et je suis partie le plus vite possible parce que, en fait, j'y avais trop de pression pour trop de pression. Et je me suis dit que c'est dans ces moments-là qu'on est le plus délétère après aussi pour dans l'accompagnement.
Ok, d'accord. C'est un petit peu ce qu'on pensait, mais c'est très intéressant de pouvoir l'entendre et pas de souci pour les bégaiements puisque tout le monde bégaye. Donc voilà, il y a aucun problème là-dessus. Peut-être qu'on va aussi passer à Elsa qui a vu l'extérieur de l'hôpital aussi, qui a vu l'intérieur, qui a priori devrait normalement se diriger vers une carrière à l'extérieur de l'hôpital. Peut-être que ça avait orienté ton choix, toi, à la fin de, enfin, quand tu as dû choisir ta spécialité, peut-être pas. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots autour de ça sur le désamour de l'hôpital public?
Ouais, bien sûr. Moi, le désamour de l'hôpital public, il a commencé dès le premier stage que j'ai fait pendant mes études. Donc, comme ça, c'est dit, j'ai détesté le système très, très, très vertical qu'il existe à l'hôpital avec une hiérarchie qui est vraiment extrêmement pesante et que je trouve difficile d'assumer. C'est-à-dire de devoir donner des ordres, de devoir entendre se dire des ordres et d'en avoir aussi. En fait, je pense que ce qui m'a vraiment dit que j'y travaillerai jamais non plus, c'est que c'est un système qui est d'une rigidité incroyable et qu'il paraît difficile de bouger en tant qu'individu. Moi, j'ai eu l'expérience d'une médecine beaucoup plus humaine et créative dans les cabinets en ville où j'exercerai plus tard. On verra dans quel type de structure. Mais en tout cas, où on n'est pas juste vu comme un maillon de la chaîne, mais comme vraiment quelqu'un qui est porteur d'innovation. Je dis pas ça en mode Startup Nation, hein, je dis ça, mais plutôt parce qu'on veut faire le bien de nos patients, parce qu'on veut faire des choses bonnes dans le soin. Et aujourd'hui, je pense pas que l'hôpital public remplisse cette mission-là, en fait.
Ok, d'accord, merci. Et Lawan, toi qui a priori te dirige peut-être pour rester un peu plus longtemps peut-être dans cette structure hospitalière, est-ce que tu as déjà envisagé de partir? Est-ce que c'est quelque chose qui t'évoque quelque chose? Ou alors est-ce que, il n'y a pas de mal, mais est-ce que toi cette structure te convient, te plaît dans le mode d'exercice?
Eh ben, ça ne fait que 3 ans que je suis dans le public et en fait c'est... suite à mon entretien annuel, en fait, que j'ai commencé à me poser la question de est-ce que je devrais plutôt me diriger vers le privé ou est-ce que, enfin, hôpital privé, ou est-ce que je devrais aller dans les petits labos de ville. C'est que maintenant que j'ai commencé à avoir cette réflexion-là, mais je pense que je vais rester encore pour quelques années dans le public. D'accord, pour des raisons complètement cons, j'ai un peu la flemme en fait de chercher ailleurs parce que j'ai un peu peur en fait de ne pas trouver dans l'immédiat en fait. J'ai l'impression qu'ils sont qu'avec la technologie, les nouveaux automates, parce qu'on utilise énormément d'automates en tant que technicien de laboratoire, j'ai peur qu'en fait qu'il y ait plus besoin d'humain en fait pour faire les analyses, juste une personne pour s'occuper des automates.
Voilà. D'accord. Ok, en même temps on peut satisfaire qu'il y ait des gens qui restent aussi dans l'hôpital public. Il y en a plein, il y en a des centaines aussi, et chacun a ses raisons, et le principal c'est que vous puissiez rester vous aussi en bonne santé. Par rapport à ça, au départ de l'hôpital public, il me semble que Tata avait des petits chiffres à nous annoncer là-dessus.
Oui, tout à fait. Du coup, on a déjà des données qui ont été récoltées, qui nous permettent de quantifier des engagements des différents personnels de santé. Là, ça se concentre plutôt sur les infirmières. À la PHP, 192 infirmières ont été recrutées récemment. Malheureusement, il y a eu 192 départs. On se retrouve dans la même situation, 100 infirmières manquantes. À l'hôpital Bichat, service de pointe contre le Covid, on a dû fermer 6 lits la semaine dernière par manque d'infirmières. C'était au mois d'octobre. Voilà, le petit chiffre qui parle.
Voilà. Merci Tata. On va du coup terminer par une dernière question parce que l'horloge tourne. Hein, et on va terminer du coup par un point qui reste important. On a parlé des problèmes de moyens et des problèmes pour pouvoir gérer son travail en tant que soignant, que ce soit à l'hôpital, en privé, en asso, etc. La question qu'on va se poser maintenant, c'est l'impact de ce manque de moyens et l'impact de ces besoins sur la qualité du soin en elle-même apporté aux patients. Et puis Elsa, en tant qu'interne en médecine, je te laisse prendre la parole en première. À toi Elsa.
Je suis désolée, mais j'ai pas bien compris la question.
Ah, excuse-moi. L'impact de ces problèmes de moyens sur la qualité du soin apporté aux patients.
Ah oui, je l'évoquais déjà tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, on ne soigne pas bien. Et d'ailleurs, Lisa l'a dit aussi tout à l'heure quand elle évoquait, par exemple, la manière dont on fait sortir extrêmement rapidement les personnes de l'hôpital sans prendre le temps forcément... de bien poser les mots sur une ordonnance, des examens à faire, etc. Et au final, on lâche les gens dans la nature le fait qu'on ferme des lits, le fait qu'on ait moins de matériel ou qu'on concentre les budgets vers des activités rentables aux dépens d'activités jugées moins rentables. Tout ça, évidemment, à la fin, ça impacte une personne en bout de chaîne, et c'est le patient. Et enfin, qu'on ne vienne pas me dire le contraire, enfin, c'est évident. Pour faire un exemple un peu simple et un peu cru et un peu trash, dans les services de gynécologie obstétrique, c'est assez connu et c'est à peine caché que dans ces mois-là, là qu'on est en train de vivre, novembre, décembre, quand le service manque d'argent, eh bien, ce qui rapporte le plus en obstétrique, c'est de faire des césariennes. Et en fait, il est assez courant d'expliquer à des femmes qui ne parlent pas très bien français, qui sont exilées, précaires, etc., que ça va être compliqué d'accoucher voix basse. Et donc, du coup, on leur impose des césariennes sur des motifs complètement farfelus. Tout ça pour faire rentrer l'argent que rapporte une césarienne à l'hôpital. Et ça, c'est... Enfin, c'est la réalité. C'est impossible qu'il y ait des services qui le nient. Voilà, moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne sais pas si Lisa, qui est sage-femme, pourra confirmer si elle a vécu ça.
Merci. Et puis, la transition est parfaite. Lisa, je te passe la parole.
Oui, ben, tout à fait. Enfin, moi, en ayant déjà travaillé dans différents hôpitaux, dans différents endroits, par exemple, malheureusement, ce n'est pas dépendant aussi de la situation du Covid. C'est aussi... parfois l'organisation même du service qui indiquait par exemple de forcer, donc on appelle ça des déclenchements, c'est-à-dire provoquer le début du travail. C'est par exemple cette organisation de service qui est régulièrement fait, ou ne pas se laisser parfois devoir précipiter une décision de césarienne, comme tu disais à l'instant Elsa. Oui, c'est assez courant et assez fréquent, oui. Et je rajoute un peu aussi dans le milieu de l'obstétrique, parce que c'est un peu c'est mon domaine aussi, mais normalement, il est recommandé de rester 3-4 jours à l'hôpital en fonction après du type d'accouchement et de la manière dont ça s'est fait. Mais dernièrement, avec la situation du Covid, on a par exemple raccourci au maximum la durée d'hospitalisation après l'accouchement. Donc c'est du temps en moins que les parents ont pour être accompagnés dans cette période qui est souvent difficile, donc pour la mise en place de l'allaitement, pour une bonne cicatrisation et même juste tout simplement le repos aussi, le repos des parents, parce que un accouchement ça dure facilement 12 heures, c'est aussi important ce temps à l'hôpital pour ne pas avoir à gérer les soucis du quotidien et à pouvoir se concentrer sur eux et sur la création de leur famille et de faire connaissance avec leur nouveau-né. Donc c'est ces temps-là dans ces temps-là, ça impacte directement la qualité de soins de ces couples. Et après, moi, je voulais ajouter aussi, maintenant, du côté moi, de mon travail dans l'asso, c'est une manière générale, c'est que ça a retardé aussi beaucoup de prises en charge. Et du coup, on se retrouve avec des situations qui étaient gérables, on va dire, il y a 6 mois, et que maintenant, ça n'est plus le cas. Par exemple, des maladies chroniques qui décompensent totalement, comme le diabète, de l'hypertension, ou des personnes n'ont pas osé consulter aux urgences et qui, du coup, se retrouvent là dans des situations très inquiétantes pour leur santé. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et très informatif en plus, parce qu'on apprend pas mal de choses un peu odieuses dont on ignorait tout. Il y a Tata qui voulait revenir sur la surmortalité. Tata, je te passe la parole.
Oui, merci. Oui, je voulais juste rajouter un mot parce que même si je travaillais pas en période de pandémie, c'était déjà le cas à l'époque, si on n'avait pas de budget, ça voulait dire moins de personnel, moins de temps où je fais du patient, moins de soins au sens large. Tous les soins, on parle pas que des perfs, faut changer les gens, on parle de toutes les disciplines qu'on peut retrouver à l'hôpital ou hors hôpital même. Bah, tout ça, ça fait plus de mortalité. Donc, c'est des gens qui meurent tout seuls. Il y a plus de risques d'accident quand tu as des patients agités ou déments. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut appuyer. Et on a besoin d'en prendre conscience, je pense aussi. Voilà.
Merci beaucoup. Et je passe la parole à Elawan pour finir, qui voulait nous parler, rebondir non pas sur l'impact sur les patients en soi, mais sur les techniciens avec le nombre de tests à faire. Je te laisse la parole, Elawan.
Merci. Alors, quand on a commencé les tests PCR dans notre hôpital, je le rappelle, en fait, c'est pas moi qui fais les tests, mais je les enregistre en fait informatiquement on avait à peu près 200 tests par jour et on arrivait parfaitement à les faire. Mais maintenant que Olivier Véran, notre cher ministre de la Santé, qui a commencé un petit peu à dire qu'on devrait faire 1 million de tests par jour, on s'est retrouvé du coup à... Enfin, on nous a dit qu'on devait normalement faire 400 tests par jour. Sauf qu'en fait, on n'a pas les bons appareils. On pouvait en faire justement 200 par jour. Passer à 400 avec un seul appareil, c'est un petit peu compliqué. Ce qui fait qu'en fait, il y a des techniciens qui, au lieu de terminer à 16 heures, ben ils ont commencé à terminer à 18 heures, et puis 20 heures, et puis 22 heures pour pouvoir en fait lancer plusieurs runs dans la journée pour essayer d'écumer le plus possible de tests. Et c'est là où la fatigue psychologique et physique commence à arriver. Pour eux. Parce que terminer à 22 heures pour ensuite reprendre le boulot le lendemain à 8 heures, c'est pas top.
C'est pas top. Et puis en plus, comme on le voit souvent dans nos émissions du lundi soir, c'est pas la seule situation qui frôle l'illégalité. Et c'est souvent quelque chose qui arrive, malheureusement, on le sait, dans les hôpitaux. On va arriver à la fin de cette table ronde, puisque vous le savez, Radio Pirate, c'est normalement 45 minutes d'émission. On est déjà à 50. Mais en tout cas, c'était super intéressant et merci à toutes les trois d'être venues. Moi, je voulais vous poser une toute dernière question. Si Olivier Véran nous écoute caché sous son pseudo Twitch ce soir, est-ce que vous auriez un petit conseil à lui passer, à lui ou alors à vos collègues pour améliorer la situation et qu'on finisse un petit peu sur une note peut-être d'espoir. Si vous avez un petit mot d'espoir à transmettre, Elsa, si tu veux peut-être commencer pour finir.
Alors, si je devais m'adresser à Olivier Véran et à tous les autres gens qui veulent essayer de repenser le système de santé, déjà, je dirais d'essayer de s'inspirer de ce qui marche dans d'autres structures, voire d'autres pays, d'essayer de développer la santé communautaire et des modes de fonctionnement aussi plus horizontaux dans les structures. Moi, je prône la fin du principe de rentabilité dans le milieu de la santé parce que je pense que c'est extrêmement destructeur. Et pour ça, du coup, il va falloir des thunes et du recrutement. Et puis, surtout, avec tout ça, il faut qu'on concentre toutes nos nouvelles perspectives vers les patients et les patientes parce que c'est là que se situe notre salut. Et d'ailleurs, je fais partie d'une merveilleuse association de soignantes féministes et on essaie de promouvoir une meilleure santé pour les femmes et pour toutes les autres personnes. Voilà, ça s'appelle Pour une meuf, si jamais il y a des gens soignants qui veulent nous rejoindre.
On peut vous suivre sur les réseaux sociaux ?
Tout à fait, nous sommes présentes sur tous les réseaux sociaux et on a même un beau site internet.
Et bah parfait, alors n'hésitez pas à aller checker du coup Pour une meuf juste après la sortie de l'émission. Et Lawan, un petit conseil pour finir ?
Alors, Monsieur Véran, si jamais vous nous écoutez, ça serait sympa de donner plus d'argent aux hôpitaux, en tout cas plus précisément aux laboratoires, pour qu'ils puissent faire ces fameux millions de tests par jour. Parce que sans personnel, sans matériel, en fait, pas de labo, et sans labo, pas d'hosto.
Ça on retient aussi. Elisa, enfin, pour terminer ce dernier tour de parole.
Eh bien, ma liste, elle est à peu près semblable à celle de mes deux collègues juste avant et de mes deux camarades. En plus de la thune et d'accepter que l'hôpital, c'est pas un endroit où on fait de l'argent, c'est aussi peut-être ajouter dans nos formations la capacité de former en tout cas nous soignants à se remettre plus en question par rapport à ce que peuvent nous dire les usagers et les usagères du système de santé.
Ok, très bien. Écoutez, merci à toutes les trois d'avoir pu participer à cette émission. On espère que ce format, ce troisième émission des gens qui bossent de notre émission du lundi soir vous a plu. On va se laisser sur une petite musique qui est Let Me Heal You de Monk Turner. Et on se retrouve dès demain soir pour notre prochaine émission qui sera consacrée, encore une fois le mardi, à la santé mentale. Bonne soirée les pirates. If you've got aches and pains, broken bones that leave you constrained, if you suffer from a disease, well, come on over and let me give you some relief.
Let me heal you. Let me heal you. Let me get my healing hands on you. Let me heal you. Let me heal you. Take a sip of this and you'll be cured. Can only do so much. What you need is a healing touch. All of your pains will be released. Well, come on over and let me experiment. Oh, I mean, let me heal you. Let me heal you. Let me get my healing hands on you. Let me heal you.